Seconde.
Petit rappel. En juin dernier, nous recevions Ferhat et Supi pour échanger sur le peuple kurde. Le podcast de l'émission est toujours disponible sur le site de la radio. Nous reprenons aujourd'hui ces échanges et abordons avec eux le Rojava. Si le sujet vous plaît, vous pouvez retrouver également sur le même site, dans la partie émission Université des Terres, la conférence qui a été enregistrée cet été au temps des cerises. Également, la Luciole réalise une série de conférences intitulée Instant Kurde. Pour vous inviter et vous partager les podcasts enregistrés, ils ont désormais une chaîne YouTube.
On est prêt ?
Oui, mon lieutenant.
Alors ?
Erdogan récemment a parlé de terroristan en allusion au terme de Kurdistan en disant que c'est un territoire de terroristes et c'est tout ce qu'il accepte comme dénomination. Donc on est dans, c'est un peu le une inversion des valeurs où les Kurdes sont diabolisés en tant que terroristes par un État qui mène une campagne de terrorisme d'État depuis des dizaines d'années contre une grande population de son propre pays.
Donc c'est là qu'on peut parler de colonialisme, peut-être. Donc plus en Turquie qu'en Iran et qu'en Irak, alors, à la rigueur.
Tout à fait. Dans les quatre États, on peut parler de colonialisme jusqu'à aujourd'hui, et plus ou moins prononcé en fonction des périodes, et surtout en Turquie. Il y a un chercheur turc, Ismail Beşikçi, qui est très célèbre, qui a fait sa thèse sur une tribu kurde qu'il a rencontrée pendant son service militaire, et qui est le premier d'une œuvre... autorisé, donc qui était sa thèse de doctorat de sociologie, qui a déclaré que le Kurdistan était une colonie colonisée par quatre États. Alors le malheur des Kurdes, c'est d'être colonisés par leurs voisins habitant dans des États autoritaires ou dictatoriaux. Aujourd'hui, la très grande majorité des pays colonisés par les puissances européennes sont indépendants. Le malheur des Kurdes, c'est qu'ils sont colonisés par leurs voisins et qui ont des intérêts. Les dirigeants, les classes dirigeantes de ces pays ont des intérêts, donc avant tout économiques, à garder le Kurdistan. Pour d'abord la première chose, le pétrole. Le premier gisement de pétrole pratiquement au monde, exploité de manière sérieuse, s'est trouvé au Kurdistan, à Kirkuk. Le traité de Sykes-Picot, donc 1916, les Anglais ont tracé la carte des pays dont ils voulaient être mandataires en fonction de ce gisement de pétrole se trouvant à Kirkuk, donc au Kurdistan sud, en Irak. Donc ils ont tracé les frontières de l'Irak, la Jordanie, la Palestine, pour pouvoir faire transiter par oléoduc le pétrole du Kurdistan jusque la Palestine. Ce n'est qu'après que les autres gisements ailleurs en Irak et dans le Moyen-Orient ont été découverts, mais le mal était fait. Donc pour cette raison, les Anglais avaient intérêt à coloniser ces territoires. Et donc, à partir de ce partage-là, qu'on appelle des accords Sykes-Picot, on a eu le partage en quatre États qu'on a actuellement. Le colonialisme décrit par Ismaël Bechekji a des caractères particuliers. Tout d'abord, il a un caractère qui ressemble aux colonies, par exemple, en Afrique. Comme mon ami Ferhat a dit tout à l'heure, il y a des tribus, mais des familles. C'est-à-dire qu'un frère et son autre frère, un frère et une sœur, un frère et son père, se sont retrouvés du jour au lendemain séparés par une frontière, dans un même village, entre deux maisons. Je pourrais même aller au milieu d'une même maison. Pourquoi ? Parce que, arbitrairement, une frontière a été choisie en traçant un trait sur une carte, sans prendre en compte la géographie, qu'elle soit humaine ou physique, uniquement l'intérêt de la puissance qui allait exploiter ce territoire. Et en Turquie, il y a une frontière particulière, c'est la frontière entre la Turquie et la Syrie, qui est plus de 800 km. Et en très grande partie, elle est liée au tracé du chemin de fer. C'est un chemin de fer qui va d'Istanbul à Bagdad. Et c'est ce qui a été choisi pour séparer la Turquie et la Syrie. Donc, c'est-à-dire que les Kurdes qui habitaient dans cette région sont coupés en deux. Donc, des gens de même famille, du même village, se retrouvent coupés en deux. Et vous verrez que la plupart des villes de Syrie sont toutes jumelles d'une autre ville en Turquie, de l'autre côté de la frontière. Pourtant, pour les Kurdes, c'est toujours le Kurdistan. C'est leur famille. On connaît tous à peu près dans notre région de quelle tribu on est à l'origine. Et bon, souvent, c'est un mélange de plusieurs tribus. D'un côté de ma famille, on est la tribu Barazi, qui est du côté de Suruj, surtout. Et de l'autre côté de Suruj, c'est Kobané. C'est la même tribu. Quand j'entends parler à la télé des Kurdes de Syrie, reconnais tout de suite que ce sont des gens de Kobané, parce que c'est exactement le même parler, la même façon de parler, le même vocabulaire de chaque côté de la frontière. Le colonialisme, donc ça c'est un peu un point commun avec par exemple les pays d'Afrique, le fait d'être découpé par des frontières arbitraires, et ensuite d'être regroupé avec d'autres populations qui se retrouvent majoritaires par rapport aux Kurdes et qui ne veulent surtout pas partager le pouvoir la richesse du territoire. Des particularités du colonialisme au Kurdistan, c'est la tentative par les quatre États d'assimiler le peuple kurde. Donc ça s'est traduit de plusieurs façons. En Turquie, qui est le pays, on va dire, où c'est plus criant, en Turquie, en 1915, il y a eu un génocide des Arméniens, où l'ancien pouvoir ottoman a assassiné à peu près 1,5 million d'Arméniens. Aujourd'hui, il reste à peine 80 000 Arméniens en Turquie. Donc, vous pouvez imaginer, s'ils étaient encore là, ils seraient plus d'une dizaine de millions. Et encore, en faisant une estimation basse. Donc, les Arméniens ont été effacés de la carte de la Turquie. Ce qu'ont réussi à faire les dirigeants turcs de la fin de l'Empire ottoman, c'était dans le cadre d'un nationalisme turc qui continue aujourd'hui, qu'on appelle le pantouranisme, c'est-à-dire de unir les peuples turcs et d'éliminer toutes les populations non turques se trouvant mélangées aux populations turques. Et donc, Mustafa Kemal Atatürk et ses successeurs, les dirigeants de la Turquie moderne, ont continué cette politique. Mais il se trouve que les Kurdes sont plus nombreux, que les Kurdes sont à cette époque plus difficiles à diaboliser parce qu'ils sont musulmans comme les Turcs. Du coup, par cette difficulté de faire la même chose pour les Kurdes, ce qui a été pratiqué à la place du génocide qui aurait pu avoir lieu, c'est un ethnocide. La différence de l'ethnocide et avec le génocide, c'est ce qu'on pourrait appeler entre guillemets un génocide culturel. C'est-à-dire que la population qu'on ne peut pas éliminer physiquement, on va l'éliminer culturellement. On va interdire sa langue, donc jusqu'à la parler. Il y a de nombreux cas de traumatisme d'enfants qui, pendant des années, n'osaient même pas parler kurde chez eux, puisque l'enseignant, récompenser les enfants qui écoutaient les voisins et qui pouvaient entendre parler leurs camarades en kurde à la maison et qui dénonçaient leurs camarades. Donc vous imaginez un peu le traumatisme que ça peut être. Donc les écoles en Turquie, pour les Kurdes, elles n'ont jamais été vues comme un moyen d'acquérir un savoir. Elles ont toujours été vues, et elles, parce qu'elles l'ont été, un moyen d'assimiler la population kurde. C'est l'ethnocide. Après, il y a eu malheureusement aussi des cas de génocide avérés, notamment à Dersim entre 1936 et 1938, où l'État a assassiné des dizaines de milliers de personnes d'une même région parce qu'ils s'étaient soulevés. Et après ça, d'ailleurs, il y a eu une chape de plomb sur le Kurdistan. C'est qu'on a pratiquement plus entendu parler des Kurdes jusqu'au mouvement actuel du PKK, du Parti des Travailleurs du Kurdistan. Donc la Turquie existe depuis 1923 jusqu'en 1989. Il n'y a jamais eu de député élu en tant que kurde qui ait affirmé sa kurdité. Il n'y a jamais eu de maire jusqu'à fin des années 70 qui a été élu en tant que kurde, qui ait déclaré sa kurdité. C'est très récent, parce que, avant, déclarer son identité kurde menait à la prison, tout simplement, si ce n'est pas à l'assassinat ou à la torture en prison. Aujourd'hui, il y a des milliers de Kurdes en prison, des dizaines de milliers. Mais ce ne sont pas des prisonniers de droit commun. Ce n'est pas pour vol, ce n'est pas, ce n'est pas pour raison criminelle, c'est pour raison politique. Ce sont des prisonniers politiques. Et bien sûr, en Turquie, on ne les appelle pas comme ça, on les appelle parce que pour terrorisme ou soutien au terrorisme, ou propagande du terrorisme. Et donc c'est très très large. Le seul fait de mettre sur Facebook un like sur une photo qui soutient la paix au Kurdistan, ça vous suffit, ça peut suffire pour aller en prison, pour soutien au terrorisme. Donc c'est fou. Et donc, on a des gens même, parce que ils ont enseigné le kurde, par exemple, se trouvent en prison. À une époque, comme je l'ai dit, le fait juste de parler en kurde menait à la prison. Il y a une anecdote très triste qui a été mise dans l'épisode d'une série en Turquie, parce que la Turquie maintenant est célèbre pour les séries qu'elle exporte dans le monde entier. C'est vrai qu'elles sont d'une certaine qualité et certaines qui sont plus ou moins courageuses. Et donc dans un épisode où on parlait de, on va dire, ce qui va conduire à la lutte armée en Turquie entre les Kurdes et l'État turc, on parle de début des années 80, à l'emprisonnement des gens militants à gauche de l'échiquier politique de Turquie, et principalement des Kurdes. Et souvent les Kurdes étaient kurdes et de gauche, puisque c'est par les valeurs de socialistes, de droit des peuples et de droit des personnes, que les gens défendaient leurs droits, les droits du peuple kurde. Dans cet épisode, c'est une mère kurde qui rend visite à son fils, et c'est tiré d'une histoire vraie, d'histoire vraie au pluriel. Elle va voir son fils qui est en prison au début des années 80. Il y a eu un coup d'État, 12 septembre 1980, qui fait que, lors de ce coup d'État, il y a eu des centaines de milliers de personnes arrêtées et des dizaines de milliers qui ont subi de la torture. Dans la prison de Diyarbakir, qui est la plus célèbre, une mère voit son fils au parloir. Donc partout c'est écrit Nemutlu Türkü diyene, heureux celui qui peut se dire turc, ou
Türkçe
konuş, çok konuş, parle turc, parle, tu pourras parler beaucoup. Donc, cette mère ne parle pas turc. Et à l'entrée, il y a une dame de sa connaissance qui sait qu'elle ne parle pas turc, et elle dit, ma tante, surtout, ne parle pas en kurde. Parce qu'il y a, dans chaque parloir, derrière chaque prisonnier, il y a un surveillant qui vous écoute. Et s'il entend un mot qui n'est pas turc, donc ici, il est en l'entendant du kurde, il met fin au parloir et ton fils va retrouver en prison, tu ne pourras pas rester avec lui. Elle dit, mais je ne sais pas parler turc. Elle dit, bah, demande-lui Nasılsın, iyi misin? Ça veut dire, comment vas-tu? Tu vas bien? Et elle a appris par cœur. Elle a répété, répété. Et quand arrivée au parloir, elle voit son fils. On va dire, elle s'appelait Ferhat. Elle lui a dit, Ferhat, Nasılsın, iyi misin? Son fils lui répond en turc, qui va bien, qui merci. Il parle un moment. Et au bout d'un moment, bon, la mère disait rien. Elle essayait de s'exprimer. Nasılsın, iyi misin? Et c'est ainsi, le parloir s'est déroulé ainsi. Et c'est révélateur de beaucoup de personnes. Il y a des problèmes de colonialisme, il y en a eu dans beaucoup d'endroits de la planète. Il y a des problèmes de non-respect des droits de l'homme. Mais c'est spécial au Kurdistan et particulièrement en Turquie. Les Bretons ont eu à se plaindre de l'État centralisateur, jacobin, français, les Basques aussi, les Corses. Mais dans l'époque récente, on va dire depuis le XXe siècle, vous n'avez jamais eu de ville bombardée par des avions militaires français en Corse, en Bretagne, au Pays Basque. Vous avez eu de la... Comment on appelle ça ? L'ostracisation du breton. Aujourd'hui, les Kurdes seraient peut-être satisfaits d'être dans la situation où des Bretons, ou des Basques, ou des Corses, ou des Catalans, ou des Québécois, ou des Wallons, ou des Romans, des personnes parlant français en Suisse. Mais ce n'est pas la voie... accepté par des États comme la Turquie, et qui font tout ce qui est en leur pouvoir pour que ça n'aille pas vers ça.
Petite, si tu es kurde, écoute-moi. Il faut partir et quitter ton chez-toi. Moi, j'ai connu ton sort, j'ai tutoyé la mort. On n'a jamais raison contre un soldat. Ils étaient 100 autour de ma maison. Au mur, il y avait de l'ail et des poivrons. Le vent était si doux, le ciel était si clair. Et mon père est tombé dans un éclair. C'était un matin calme de septembre. Ils ont amené ma mère dans la chambre. Grand-père dans ses mains pleurait comme un enfant. Dehors, on entendait hurler maman. Grand-mère faisait du pain dans la cuisine. Elle s'effondra le nez dans la farine. Et sur son cœur éclos la fleur d'un géranium, dernier hommage qu'elle ait reçu d'un homme. Grand-père à coups de crosse dans le dos implorait la pitié de ses bourreaux. J'entendais les soldats qui riaient tant et plus. Et maman sur son lit ne criait plus. Soudain le soleil s'est endeuillé, les obus éclataient comme des œillets, la mort faisait ripaille jusque dans nos jardins, il n'y poussait plus que des orphelins. La pluie qui avait cousu tout l'horizon faisait fumer les ruines des maisons, et tout en m'éloignant du ciel de Babylone, j'ai compris que je n'avais plus personne. N'écoute pas les fous qui nous ont dit La liberté est au bout du fusil. Ceux qui ont cru ces bêtises sont morts depuis longtemps. Les marchands d'armes ont tous de beaux enfants. Depuis la nuit des temps, c'est pour l'argent que l'on envoie mourir des pauvres gens. Les croyants, la patrie, prétexte et faribole, combien de vies pour un puits de pétrole. Petite, si tu es kurde, il faut partir. Les enfants morts ne peuvent plus grandir. Nous irons en Europe, si tel est notre lot. Là-bas, ils ne tuent les gens qu'au boulot.
Alors donc, on va, finir sur le dernier thème, donc le Rojava, pour mettre un peu d'espoir, un peu de socialisme, etc. Donc vous nous l'avez expliqué tout à l'heure, hein, c'est donc effectivement une région donc, de la Syrie qui essaie donc de mettre donc, en œuvre une philosophie politique, une philosophie sociale, des activités politiques, des activités sociales très particulières, donc on pourrait dire à la fois socialiste, à la fois libertaire, ce qu'on appelle le communalisme, etc. Donc bah, je pense que les gens savent plus ou moins ce qui se passe au Rojava, mais sans en avoir les détails. C'est surtout au niveau de la démocratie qu'on aimerait bien vous entendre, puisque c'est à partir de là que vous dites donc qu'il n'y a pas pour les Kurdes donc l'intention de créer un État-nation, mais au contraire donc une confédération, si j'ai bien compris, une fédération de fédérations basée donc sur la démocratie directe. Donc je vous laisse la parole.
C'est ça. Comme l'évoquait Suppi tout à l'heure, avec la création du Parti des Travailleurs du Kurdistan en 78, alors il était peut-être... mais c'était même pas le Parti des Travailleurs du Kurdistan. Je pense que Enyer Ezgarian Etawa Kurdistan, c'était le Front de Libération du Kurdistan.
Oui, Front de Libération Nationale du Kurdistan.
Voilà, c'est ça, le Front de Libération Nationale du Kurdistan. Et là, l'objectif était la création d'un État. Pour des raisons politiques, pour des raisons géographiques, pour des raisons contemporaines, pour beaucoup de raisons, le fondateur du Parti des Travailleurs du Kurdistan, qui est Abdullah Öcalan, a décidé de changer son fusil d'épaule. Il s'est rendu compte que la création d'un État n'était pas forcément possible et n'était pas forcément la meilleure solution, de toute façon. Un revirement, en fait. Il est passé d'une mentalité très marxiste, léniniste, à quelque chose de beaucoup plus...
Libertaire,
c'est ça. Il est passé à quelque chose de beaucoup plus libertaire. Et il a appelé ça le confédéralisme démocratique. Et il a appelé ça le confédéralisme démocratique. Le confédéralisme démocratique. Qu'est-ce que c'est ? Le confédéralisme démocratique, c'est une société où chacun peut disposer librement de soi-même. Je m'explique. Peut parler sa langue, peut vivre sa religion, peut vivre son genre, parce que même si les Kurdes sont réputés féministes, le Moyen-Orient, c'est pas forcément le cas. Et avec le confédéralisme démocratique, c'est l'instauration d'une démocratie directe, dite participative. C'est-à-dire que on régule la société du bas vers le haut. C'est un exemple que je donne systématiquement. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est celui qui est le plus représentatif. C'est-à-dire que quand on prend une structure pyramidale, les décisions ne viennent pas d'en haut et le peuple ne subit pas. Non, au contraire, le peuple dicte ce que le sommet doit faire. Et c'est de cette façon-là, c'est de cette façon-là qu'on avance. Alors, ça a été instauré au Rojava parce qu'il y a eu un flou gouvernemental après l'invasion de Daesh. Ça a été beaucoup plus facile. Et ça a été beaucoup plus facile à installer dans cette région-là. Pourquoi ? Parce que avec l'invasion de Daesh, et seulement, je ne vais pas dire seulement les Kurdes, mais seulement les peuples du Kurdistan qui ont décidé de combattre, parce qu'il n'y avait pas que les Kurdes, avec tous ces peuples, et seulement ces peuples-là, après avoir combattu, bah, naturellement, sont devenus légitimes dans la région et ont décidé d'instaurer, de mettre en place le système qu'est le confédéralisme démocratique.
Et aussi parce que je suppose qu'il n'y avait pas d'État derrière ces combattants contre Daesh pour donner, par exemple, des directives. Bah, ils étaient un peu abandonnés à eux-mêmes dans leur résistance.
Les États irakiens et syriens n'existaient plus.
Voilà, c'est ça.
Bah, y avait les seuls États qu'il y avait, c'était ce qu'on appelait naïvement la coalition, les alliés. Enfin, je dis très naïvement parce qu'aujourd'hui, quand on regarde, c'était plus de l'hypocrisie qu'autre chose. Parce que la coalition, elle a duré le temps qu'elle a duré. Mais aujourd'hui, il n'est plus question de coalition, il n'est plus question d'alliés, il n'est plus question de tout ça. Et je parlais, pour revenir, je parlais des peuples. Des peuples, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est sur la question du Rojava. Il y a des Kurdes, certes ils sont majoritaires, mais ils n'ont pas leur mot à dire à eux seuls. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il y a des Chaldéens, des Assyriens.
C'est des chrétiens.
Des Arabes. J'en oublie ça. Il y a des Turkmènes. Et chacun a son mot à dire. Alors, il y a des assemblées turkmènes, il y a des assemblées arabes, il y a des assemblées kurdes, il y a des assemblées assyro-chaldéennes. Et chacune de ces assemblées régissent la vie sociétale. Et de quelle façon ? En envoyant des porte-paroles dans des assemblées supérieures, etc. Le système mis en place au Rojava, c'est un système basé, tout à l'heure, tu faisais état de tolérance, donc c'est totalement ça. Et ça va même au-delà de la tolérance, c'est l'acceptation. Aujourd'hui, on accepte tout le monde au Rojava, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit sa religion, quel que soit son genre. Et chacun a son mot à dire dans la vie et dans la gouvernance de la région.
Une petite question. Et puis, donc la démocratie directe, participative, comme diraient certaines élites, même en France, ça prend du temps et ça prend de l'énergie. Donc, comment ça se passe effectivement et concrètement donc, au Rojava, quand ça prend autant de temps, autant d'énergie à discuter, etc. Parce que je suppose que la situation économique n'est pas toujours florissante.
L'économie, il n'y en a pas. L'économie au Rojava, quand je dis il n'y en a pas, je m'explique. L'économie au Rojava, elle est basée sur l'autosuffisance. C'est-à-dire, on est sur une agriculture bio, on est sur de l'énergie durable et on essaye d'être totalement dans l'autosuffisance. Pourquoi je dis qu'il n'y a pas d'économie ? Parce que aujourd'hui, le Rojava est sous embargo. Sous embargo, parce que Supi en a fait état tout à l'heure. On a la Turquie. Qui s'est pas gêné d'annexer Afrin, la région d'Afrin en 2018, et qui a toujours des velléités colonialistes sur le reste du Rojava actuellement, qui en a d'ailleurs aussi sur le Kurdistan du Sud, hein, mais sur la partie irakienne également. Mais la Turquie d'un côté, l'Irak de l'autre également met un blocus sur le Rojava et également le pouvoir actuellement du Kurdistan autonome du Sud à travers le Parti démocratique du Kurdistan, le PDK, aujourd'hui qui est hostile également à cette région du Rojava et au système qui est en train de se mettre en place. Pourquoi ? Parce que c'est tout l'inverse de ce qu'il prône lui. Lui, l'ami d'Erdogan aujourd'hui, qui aujourd'hui base son pouvoir essentiellement sur sa tribu. Mais littéralement sur sa tribu, il est arrivé au pouvoir en disant « Mon père était là, donc de droit, je suis le successeur légitime. » On parle du Kurdistan du Sud. Et
irakien, c'est-à-dire.
Oui, c'est ça, irakien.
C'est Barzani.
C'est ça, c'est la famille Barzani. Et ce sont les premiers, par exemple. Alors, bien évidemment, à la fin, ils ont donné une aide logistique également au Rojava pour pouvoir combattre Daesh, mais il y avait toute la communauté internationale qui larguait des munitions. Enfin, ça, voilà, ça aurait été...
C'était symbolique, c'était pas énorme l'aide.
Mais voilà, le gouvernement autonome du Kurdistan du Sud irakien donc, a été obligé de faire ce geste-là symboliquement. Et donc, économiquement, on prône plutôt l'autosuffisance. Et donc, à partir de là, économiquement, on n'a pas de souci. Et la démocratie directe, elle prend du temps et de l'énergie. Oui, elle prend du temps et de l'énergie. Parce qu'il faut prendre le temps d'écouter chacun et chacune. Il faut prendre le temps d'écouter. Alors, c'est pour ça que chaque assemblée fait son travail en amont. C'est pour ça que chaque assemblée, il y a des assemblées de quartier, il y a des assemblées d'arrondissement, il y a des assemblées de communes, il y a des assemblées il y a des assemblées de conseils, il y a des assemblées de fédérations. Et c'est avec ces assemblées-là que chacune envoie des porte-paroles vers les assemblées supérieures. Bien sûr, toutes les décisions ont été prises en amont et ainsi de suite. Alors oui, ça prend du temps, mais les décisions sont saines.
Mais quand il y a des accords, au final, qui tranchent, par exemple, si je suppose qu'il y a des lois particulières...
Des accords en un mot ?
Des désaccords en amont ?
En un mot ? En un mot. Des accords ou quand il y a des accords ?
Non, des accords en un mot, bien oui. sûr. La question la plus difficile.
Mais on trouve des accords en deux mots.
Bah oui, c'est ça. On peut trouver des accords. Ouais. Le fait que la démocratie soit participative, justement. Il y a un débat qui se fait de toute façon, quoi qu'il arrive. Débat il y a, et au final, un vote au sein de chaque assemblée, et le principe de la démocratie, c'est la majorité qui emporte. Et tout le monde en a conscience, et tout le monde accepte le fait de toute façon, quoi qu'il arrive.
Donc ça ne marche pas par consensus, ça marche par vote.
Oui. Et, comme toute démocratie.
Bah, dans certains cas, on recherchait plus le consensus que le vote majoritaire.
C'est compliqué de trouver un consensus dans certains cas. Et pour éviter de dire dans certains cas qu'on cherche le consensus, dans d'autres un vote majoritaire, non. Toutes les dispositions sont votées et à la majorité. Voilà.
Est-ce que ce n'est pas rendu possible par le fait que la région a été en guerre ? Et donc, les populations sont quand même en état de pauvreté, entre guillemets, et que de toute façon, dans ces cas-là, je pense que la solidarité est beaucoup plus forte, qu'il y a moins de recherche de profit d'un côté ou de l'autre, parce que c'est quand même des situations précaires.
Oui. Alors, c'est tout à fait la bonne définition. C'est une situation précaire. Elle est précaire parce que du jour au lendemain, la Turquie peut y mettre fin. Aujourd'hui, il y a une guerre qui se passe à Gaza. On en parle beaucoup. Il y a des milliers de morts. Mais dans l'ombre, il y a une guerre qui se passe au Rojava. La Turquie a bombardé tout ce qui pouvait... On parlait d'économie. Tout ce qui pouvait servir à l'économie de... Alors, on va arrêter de dire Rojava, on va parler de l'administration du nord et de l'est de la Syrie. puisque si vous voulez, c'est le nom qu'ils se sont donné. Ils ne sont pas appelés Rojava, on continue de, par habitude, parce que ils ont acté le fait que les Kurdes ne sont pas tout seuls, même s'ils sont légèrement majoritaires, une grande partie de la population est arabe, et puis des, avec les autres minorités. Donc, parce que le Rojava aujourd'hui, c'est pas, pardon, la région qui est, dont on parle et qu'on appelle, continue à appeler Rojava, c'est le Rojava, c'est-à-dire les régions kurdes, plus une grande partie, en fait tout l'est de la rive, de l'Euphrate, pardon. Tout l'est de l'Euphrate. Tout l'est de l'Euphrate fait partie de cette région autonome, de fait, et une région qui s'appelle la région de Manbij. Avant, il y avait aussi Afrin, mais elle a été donc envahie par la Turquie. La Turquie, elle a plus ou moins le feu vert à certaines périodes. Par exemple, Donald Trump a dit à un moment, on part de Syrie, on laisse les Kurdes tout seuls. Erdogan a à chaque fois profité de ces feux verts implicites et explicites pour envahir et prendre une partie du Kurdistan, de Syrie. Aujourd'hui, le Kurdistan, la majorité du territoire, c'est un territoire peuplé d'Arabes et plutôt désertique. Aujourd'hui, la région autonome, c'est peut-être 3 fois, 4 fois la taille du Rojava, population à majorité kurde. Cette région a du pétrole. Elle peut s'autosuffire. Elle exporte même du pétrole à Damas et pour le reste de la Syrie. Elle a des barrages sur l'Euphrate qui lui amènent l'électricité. Elle a une grande région agricole qui est la Jezireh, le cœur de Rojava. Mais tout a été détruit. C'est-à-dire, 2 à 3 jours avant l'agression du Hamas en Israël, la Turquie a commencé à bombarder la nuit du, je crois, 5 octobre, 7 octobre, je confonds les dates. Ils ont bombardé tout ce qui pouvait servir à la population. Les dépôts de grains, les matériels agricoles, les usines, les écoles, les bâtiments officiels, tous les morts civils qu'il y a, officiellement, tant de terroristes ont été neutralisés. Qu'ils soient enfants, civils, ça ne change pas pour eux. Ils ont bombardé toutes les zones de production de pétrole, d'électricité, les barrages, tout ce qui est nécessaire à la vie d'un territoire. Et personne ne dit rien.
On n'a même pas entendu parler.
D'où l'hypocrisie occidentale. Ah.
Vous savez, en 2015-2016, la Turquie a fait ce qu'on appelle la politique de la terre brûlée. Elle a fait ça dans les années 90. Mais en parallèle de la guerre qui se passait en Syrie, il était à une époque, en 2015-2016, plus facile pour un journaliste de se rendre en Syrie en pleine guerre que se rendre dans le Kurdistan de Turquie. Parce que la Turquie a les moyens et par rapport aux intérêts qu'ont les autres puissances, de cacher complètement, de faire des massacres à huis clos. C'est-à-dire qu'il y a au moins une dizaine de villes kurdes qui ont été bombardées de la même façon qu'ont été bombardées les villes syriennes comme Alep, Homs, Hama. Mais on n'en parle pas. Elles ont été, il y a des grandes parties de la ville complètement rayées de la carte. Des milliers de morts. Personne n'en parle. La même chose qui se passe en Syrie, qu'on voit aux informations aujourd'hui, qui se passe à Gaza, sont passées au Kurdistan de Turquie, personne n'en parle. Alors c'est la base du problème. La base du problème, c'est que c'est que ce soit en Syrie, et même, il l'a dit lui-même, enfin un président turc l'a dit lui-même, que ce soit en Argentine, qu'il y ait l'expression, qu'il y ait l'acceptation d'une identité kurde quelque part, elle est combattue par le régime turc. L'espoir, c'est la démocratie. Alors, on parlait de Rojava. la Confédération démocratique, le municipalisme, le communalisme, la démocratie directe. On peut parler d'utopie, mais sans utopie, on n'avance pas. On n'est pas obligé de l'atteindre, l'utopie. D'ailleurs, c'est sa définition. Mais elle nous fait progresser. Donc, la seule issue raisonnable de tout ça, vous savez bien que ce n'est pas la guerre. Personne n'a gagné à la guerre, à part ceux qui vendent les armes. Les peuples, ce qu'ils veulent, c'est la paix. Et donc, la solution, c'est la démocratie. Tant qu'au Moyen-Orient, on n'aura pas des régimes démocratiques, une région démocratique comme, par exemple, l'Europe, des relations démocratiques entre les pays, enfin, pardon, des relations apaisées entre les pays de la région et surtout des relations apaisées entre l'État et ses populations, qu'elles soient kurdes ou pas. Et le problème aujourd'hui, c'est surtout les Kurdes, puisque c'est ceux qui se retrouvent minoritaires dans 4 pays, bien qu'ils soient très nombreux. Tant qu'il n'y aura pas de réelle démocratie, il y aura toujours une guerre au Moyen-Orient.
Je crois que c'est pas très optimiste.
Si, je crois que justement, on peut conclure là-dessus. Je pense que pour.
C'est une belle conclusion.
Comme mot de la
oui,
fin,
c'est
t'as,
une belle conclusion.
T'as bien résumé.
Je suis optimiste en le disant.
Ouais, je suis pas d'accord avec toi, justement, parce que à partir du moment où tu dis ce qu'il faut pour que ça aille bien, t'es déjà optimiste, en fait. Donc,
Exactement. Tu donnes une solution, c'est clair.
Ouais. Voilà. En tout cas, Supis, Ferhat, merci.
Merci
à vous.
Super.
Et pardon, hein, je sais pas faire court encore.
Il n'y a pas de problème. Allez, à ciao, bientôt. À bientôt plutôt. Ciao.
Radio Primitive.